Blanchet, c'est donc c'est les 7 errances après la mort d'un frère. Ce qui est très étrange, c'est que la mort réelle de mon frère est arrivée 2 ans après ce livre, dans des circonstances analogues. Une mort violente, je veux dire, par accident, comme ça. Mais j'arrive pas à faire le lien. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Enfin, c'est... Comment dire? Je peux pas croire que ce livre ait été comme une sorte de deuil par anticipation. Mais c'est ça que ça a été, finalement. C'est comme si j'ai fait le deuil de mon frère avant même qu'il meure. Finalement, ça a été un deuil peut-être plus facile à vivre après. Mais donc je vais vous lire la fin. Donc quand elle remonte vers la vie, en quelque sorte, nous donner un peu d'espoir en ce soir de malheur. Je retournais à Montréal, j'acceptais l'invitation à un vernissage et parlais légèrement d'art contemporain. À Paris, il ne me rappelle pas et cela me déçoit. Je le croyais plus tenace. Je change quand même de numéro de téléphone et rêve de déménager. Tout rasé. Mon petit frère me visite à l'aube. Il me prévient qu'il ne pourra plus venir. Il dit qu'il est en rémission. Je ne pose pas trop de questions. Je pleure longtemps. Son corps, de plus en plus transparent, flotte dans l'air comme une aurore boréale. Je tends la main, tandis qu'il disparaît. Son rire léger, je cours à la fenêtre. J'entends sa moto en bas, qui démarre et bondit dans la rue. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu? L'homme de Montréal m'emmène dans les anciens quartiers ouvriers, Saint-Henri, le faubourg Amelas. Je photographie les usines désaffectées, les cicatrices de la vie ouvrière. Plus tard, bien après minuit, attablé dans un café au coin de Sainte-Catherine, Saint-Laurent, l'endroit est bondé de travestis, de jeunes prostituées, de garçons survoltés qui ne cessent d'entrer et de sortir. La langue court, provocante et dévergondée au-dessus des tables. Je mange avec les doigts des frites molles, secoue comme il se doit la bouteille de ketchup en plastique et bois du café délavé avec une étrange jubilation. J'appelle K en Bretagne, presque un an que je ne l'ai pas vu. C'est sa femme qui répond. Je raccroche. Dans un immense entrepôt plein d'électricité, de fumée bleue et de jeunes gens aux lèvres percées, la musique percute les murs, l'air vibre au rythme de la basse, les vêtements s'envolent, les torses dénudent. Une fille seule sur une estrade comme une stripteaseuse à son poteau danse sous les ovations. Je me rappelle soudainement être déjà venue là avec mon frère durant un été passé à Montréal. Je suis au cœur de la foule, saisie d'une nostalgie bruyante et sauvage. Par la plaie ouverte s'écoule la substance corporelle, un liquide blanchâtre et visqueux. Je tente de le retenir de mes deux mains. À Montréal, l'air est humide, les deux pieds dans la slush, et c'est pourtant Pâques. Incrédule, je regarde le calendrier. Une année entière s'est écoulée, tandis que je ne faisais rien. J'ai froid aux pieds, le bout des doigts gelé. Ma chandelle est morte. Colère de sentir quelque chose, comme si ce faisant j'étais infidèle au souvenir comme si déjà j'oubliais. Je voudrais que tu restes avec moi assis sur mon épaule tandis que j'apprends à conduire la moto. Le moniteur, lui, est impatient et il s'énerve quand je ne parviens pas à changer de vitesse. Il préfère visiblement la conduite masculine. À Paris, les marronniers en fleurs et l'air poudré de rose et de blanc, la moto est lourde tandis que je la pousse arc-boutée. J'ai chaud sous le cuir et le casque, la chemise trempée, les cheveux collés. Quand je baisse la béquille, le poids de la bête brûlante contre moi pèse comme un corps mort. Pendant le repas dominical, mon père allume la télévision. Il regarde un match de foot. Je lui fais une scène si violente que ma mère pleure. Je leur affirme que rien ne reviendra comme avant, mais qu'il y a la vie, la vie, la vie. Tu peux bien parler, toi, grommelle mon père, sans quitter des yeux l'écran. Je ne sais pas pourquoi la douleur sépare autant les êtres. Dans la pénombre, la femme a l'âge et le visage d'Elfriede Jelinek. Elle tire par les jambes sur le carrelage blanc le corps d'une très vieille femme. Son corps est décharné, ses mains longues et fines, sa tête blanche d'odoline sur la poitrine flasque. L'eau est chaude et moussante dans la baignoire. Le sang a giclé partout sur les murs. La femme prend le vieux corps dans ses bras. Ses jambes fléchissent sous le poids et les deux corps roulent l'un sur l'autre. Je tends la main vers elle et me cogne contre la paroi de verre. Je suis Cold Turkey. Mon petit frère et moi, nous faisions nos courses chez l'arabe du coin. Il est algérien. Il a de beaux légumes. Même s'il ne m'a pas vu depuis un an, il m'accueille comme si rien n'était. Ah, te voilà, t'es toute mince! Il m'offre des figues fraîches, me fait des compliments sur ma robe fleurie. Je retrouve prudemment l'usage de la parole, les mots creux et légers, comme des rêves éveillés. Mon frère ne revient plus me visiter la nuit. Il est parti. Il vit sa vie. Je me débat dans le quotidien comme quelqu'un qui a peur de l'eau et qu'on force à nager. J'avance en titubant, un crabe sur le sable gris. Maintenant, il te faut vivre. C'est ça le problème. Chaque jour de ma vie m'éloigne de sa mort à lui. Ainsi, les chemins se séparent. Comment te retenir, prendre ton grand corps dans mes bras, le secouer comme un prunier, t'entendre rire, prends ma vie à la place de la tienne.